Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, regard sur l'Europe tout d'abord, dans le cadre des élections européennes en compagnie de Michel Rousselot, président ingénieur et cadre européen pour l'organisation associée à la CES, Confédération européenne des syndicats. Puis, la toute nouvelle librairie coopérative de Trévoux ouvrira ses portes le 18 mai prochain. Avec nous, Héloïse Pontu, l'une des bénévoles engagées dans cette action citoyenne, pour nous en parler. Et pour conclure, nouvelle édition pour les Houillères en fait, et sa mythique course de Solex, 4 heures d'efforts sportifs. Vous saurez tout en compagnie d'Yves Pélanda, membre de l'organisation de la manifestation. Calade, le journal. Les bonnes nouvelles sur le front climatique sont suffisamment rares pour être soulignées. Alors que les émissions de dioxyde de carbone CO2 provenant de la combustion d'énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz ont bondi en 2018 dans le monde, elles ont diminué de 2,5% dans l'Union européenne comparé à 2017. Selon les premières estimations de l'Office statistique Eurostat publié le 8 mai dernier. Une lueur d'espoir dans un tableau qui se noircissait dernièrement. L'Europe avait connu une hausse de ses rejets en 2017 de plus 1,8% et en 2015 plus 0,7%, interrompue par une très légère baisse en 2016. Or, ces émissions sont la principale cause du réchauffement climatique d'origine humaine. Selon un représentant de la Commission, cette baisse s'explique par un recours accru aux énergies renouvelables, hydroélectricité, éolien, solaire, biomasse, dans la production d'électricité au détriment du charbon et du gaz naturel qui accusent un déclin. De plus en plus d'États membres se sont engagés dans une sortie du charbon. La France a annoncé fermer ses centrales en 2022. Le Royaume-Uni en 2025 et les Pays-Bas en 2029. La consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation a également diminué entre 2017 et 2018. En revanche, les émissions liées au transport, en hausse ces dernières années, demeurent préoccupantes. Regard sur l'Europe tout d'abord dans cette édition, dans le cadre des élections européennes, en compagnie de Michel Rousselot, président ingénieur et cadre européen pour l'organisation associée à la CES, la Confédération européenne des syndicats.
Oui, quand on parle d'Europe, vous avez raison, il faut d'abord regarder d'où on parle. On parle d'une petite péninsule dans le monde qui s'appelle l'Europe et qui est aujourd'hui confrontée à toute une série de défis qui se passent dans les autres régions du monde. On est confronté au développement de la Chine. Alors le développement de la Chine, c'est sympathique parce que ça a permis à des millions de Chinois de pouvoir vivre, ce qui n'était pas le cas auparavant, de pouvoir se nourrir. Mais avec le régime dictatorial qu'a ce pays, on se rend compte que la Chine est en train de conduire toute une série de politiques d'investissement qui concernent directement nos pays. La Chine achète des terres, pas seulement en Afrique, elle en achète en Afrique, mais elle en achète aussi dans nos pays européens, en France en particulier. Elle achète des ports, elle développe une stratégie d'investissement des routes de la soie qui conduit tout à fait à une volonté d'intervention dans le monde renforcée. On est aussi confronté à l'évolution de l'Amérique. On a un président américain qui devient de plus en plus dangereux, va en guerre. On entend récemment, ces derniers jours, qu'il veut imposer de nouveaux embargos aux produits iraniens et qu'il veut imposer aux autres pays comme le nôtre de suivre cet embargo sous menace de mesures contre notre commerce international. Et puis, n'oublions pas, dans la période d'élection, son ancien conseiller Steve Bannon s'est installé à Bruxelles pour soutenir les candidats d'extrême droite dans les différents pays européens. Donc il y a une volonté d'intervention de ce côté-là, directement dans nos débats européens et dans nos débats liés à la construction européenne. Alors je mentionne aussi, parce que pour être complet, la Russie de Poutine. Et c'est la première fois depuis l'armistice de 1945. Depuis 1945, il n'y avait pas eu de changement de frontière en Europe. est aussi bien en Géorgie qu'en Ukraine, il y a eu des conquêtes ces dernières années, des conquêtes militaires, et il faut appeler les choses par leur nom. Donc l'Europe est soumise à une pression de son environnement qui est tout à fait nouvelle. On n'est plus dans la guerre froide, mais on est dans des menaces bien réelles qui pèsent sur elle. Je n'ai pas mentionné la cyberguerre, qui est aussi bien réelle, même si elle est cachée.
Donc, on remarque combien cette Europe a un poids et pourtant un caractère un petit peu lointain que représente cette Europe, en tous les cas, pour les Français.
Alors, on entend souvent dire, particulièrement en France, que la France est un grand pays. C'est un mensonge. La France représente 1% de la population mondiale. On n'est pas un grand pays qui pèse dans le monde avec 1% de la population. L'Europe, par contre, a du poids parce que l'Europe, c'est beaucoup moins de population que la Chine, naturellement, mais c'est une population 2 fois supérieure à celle des États-Unis. L'Europe est la première puissance commerciale mondiale. Sur le plan économique, elle fait jeu égal avec les États-Unis. Donc, notre seule façon de peser face aux menaces que j'évoquais il y a un instant, qui existent dans le monde dangereux dans lequel nous sommes, c'est bien par l'Europe. L'Europe est notre seul instrument qui nous permet d'agir. Tous les cocoricos nationaux qu'on entend ou nationalistes qu'on entend sont simplement en dehors de la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, si nous revenons à votre question sur le caractère un peu lointain de l'Europe, c'est vrai que l'Europe apparaît souvent un peu compliquée, un peu lointain. On ne sait pas très bien ce qui se passe à Bruxelles. Alors, rappelons quand même que lors des élections européennes que nous allons connaître dans quelques jours, c'est une décision française, particulièrement du président de la République, qui a voulu que les élections se passent avec une seule circonscription nationale. Et on a abandonné ce qu'on avait connu lors des deux dernières élections, depuis 10 ans, lors des deux dernières élections européennes, avec des circonscriptions régionales. Il avait probablement des raisons politiques de faire ce choix, mais on ne peut pas dire que ça rapproche les citoyens européens des députés. Par ailleurs, lorsqu'on nous dit « l'Europe, c'est compliqué », j'ai eu à plusieurs reprises à expliquer les institutions françaises à des amis d'autres pays. C'est pas plus simple que l'Europe. C'est pas plus compliqué non plus. C'est plus compliqué parce qu'on connaît moins. Mais le fonctionnement des institutions où il y a une commission qui joue le rôle d'un gouvernement, où il y a un parlement qui joue le rôle d'une assemblée parlementaire, où il y a le conseil qui est la seconde assemblée législative avec le parlement, c'est finalement assez classique dans le fonctionnement de principe des institutions européennes. Si l'on regarde de près, on s'aperçoit d'ailleurs que le fonctionnement de l'Europe est beaucoup plus démocratique que le fonctionnement français. Les ministres français sont nommés par le président de la République. Le Parlement n'a pas son mot à dire. Alors que les membres de la Commission européenne sont auditionnés individuellement et de façon extrêmement précise par le Parlement européen. C'est qu'un exemple, on pourrait en mentionner d'autres. Au total, il apparaît bien que le fonctionnement européen est beaucoup plus décentralisé et beaucoup plus respectueux de la diversité des situations que ne l'est le système très jacobin et centralisé français.
C'était Michel Rousselot, président ingénieur et cadre européen pour l'organisation associée à la Confédération européenne des syndicats CES. Il portait pour nous un regard sur l'Europe dans le cadre des élections européennes. La folle aventure, c'est quoi ? La toute nouvelle librairie coopérative de Trivoux qui ouvrira ses portes le 18 mai prochain. L'histoire de cette folle aventure avec Héloïse Pantus, l'une des bénévoles engagées dans cette action citoyenne.
Alors, elle est née en 2016, en fait, lorsque la précédente librairie qu'on avait sur Trivoux, La Plume Rouge, a fermé ses portes. Beaucoup de gens étaient très déçus de la fermeture de cette librairie et un collectif d'habitants s'est rassemblé dans l'idée soit de soutenir cette librairie qui fermait, soit de repartir sur un nouveau projet. Donc la précédente, l'histoire était terminée, donc on ne pouvait plus rien faire, donc ils se sont rassemblés. C'était au départ des réunions officieuses. Et puis petit à petit, le projet a pris forme. Ils ont rencontré d'autres librairies coopératives. Ils ont commencé à faire une étude de marché, à se renseigner, à trouver le local qui pourrait accueillir nouveaux commerces. Et puis tout ça nous a amené à l'année dernière, où on a vraiment créé la coopérative donc, et la Folle Aventure. Et ensuite, le local a été également trouvé grâce à une UCI qui s'est fondée avec les acteurs en fait, et les partenaires sur le territoire. Et enfin, on a recruté notre libraire professionnel l'année dernière également. Et les travaux vont démarrer. Et nous sommes en train de finaliser tout ça jusqu'à l'ouverture du mois de mai.
Un gros travail, j'allais dire, en quelque sorte participatif, c'est ça, hein, puisqu'il n'y a que des habitants.
Que des bénévoles, que des habitants, plus le soutien en fait, des partenaires de l'économie sociale et solidaire sur Trévoux, qui est un énorme tissu, en fait, qui nous ont beaucoup appuyés, beaucoup soutenus pour qu'on puisse démarrer, ou d'autres organisations telles que Village Vivant, en fait, qui œuvrent à réhabilitation des centres-villes, qui fait partie de nos objectifs aussi, et qui nous ont beaucoup soutenus dans cette aventure.
Alors, il y a une bibliothèque municipale à Trévoux, plus une librairie qui est coopérative, mais qu'on va dire un petit peu privée, c'est ça un peu.
Tout à fait. Donc, il y a la médiathèque sur Trévoux, très belle médiathèque, en fait, qui a été créée il y a quelques années. Il y a également la librairie. C'est deux choses complètement différentes, en fait. La librairie, vraiment, s'adresse aux gens qui voudront venir acheter des ouvrages, et également des jeux, et également de la papeterie. Et la médiathèque joue son rôle habituel, etc.
Oui, éducatif.
Exactement, ouais. Pour l'accueil des écoles, des gens. Ça cohabite.
Alors comment, effectivement, on part de rien, presque de rien, j'allais dire, hein, finalement, et puis comment on... voilà, explique-nous un petit peu comment... Moi, je suis assez curieuse de savoir comment on crée une librairie.
C'est une très bonne question, en fait. J'ai rejoint le projet en cours de route, moi, et donc les habitants s'étaient déjà réunis. Comment on part de rien, c'est très, très dur, parce qu'au début, c'est juste une idée, un projet. C'est même né d'une déception, en fait, hein, la douleur d'avoir perdu sa librairie pour les bons lecteurs qu'on avait sur Trévoux et les communes environnantes. Bah, ça commence par des petites réunions officieuses, comme je disais tout à l'heure, et ensuite, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches, beaucoup de démarches auprès des banques, beaucoup de démarches pour savoir quelle structure donner, pourquoi on s'oriente vraiment vers une coopérative. L'idée, c'était quand même de ne pas supporter tous les risques et toutes les responsabilités sur une seule personne, mais de combiner les compétences de chacun pour pouvoir mener un projet à bout. Donc vraiment, la structure de la coopérative s'est imposée d'elle-même. Et puis ensuite, il a fallu présenter le projet aux habitants, avoir l'adhésion de tout le monde, le soutien de tous, démarcher les banques, démarcher les entreprises partenaires, trouver les locaux au sein de la commune, etc. Beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été multipliés là, durant 3 ans.
La nouvelle librairie coopérative de Trévoux vous donne rendez-vous le 18 mai prochain dans la grande rue de Trévoux. Et pour conclure, nouvelle édition pour les Houillères en fait, et sa mythique course de Solex, 4 heures d'efforts sportifs. Vous saurez tout en compagnie d'Yves Pélanda, membre de l'organisation de la manifestation.
Alors cette année, plus que jamais, puisqu'on aura diverses animations, il y en aura pour tout le monde et la fête commencera à 9h du matin et finira à 19h le soir. Donc il y a de quoi s'occuper toute la journée. Alors bien évidemment, la fête, on a repris la course de Solex. Là, c'est vraiment la 11e édition de cette course. Donc c'est un événement original, très coloré. C'est le seul événement de ce type dans le département du Rhône et même dans les départements avoisinants, à part dans l'Ain où il y a encore ce type de course. Donc c'est un événement rare et ça vaut vraiment le coup d'être vu. On attend une 40aine d'équipages, dont des équipages féminins. Et puis, donc, c'est une course de Solex. Alors, on a des Solex d'origine, bien entendu, avec les pédales, qui ne roulent pas trop vite. Mais on a des engins qui ont été quelque peu modifiés et qui peuvent monter jusqu'à 100 km/h. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par le sport mécanique, venez voir, ça vaut le coup.
Alors, ce sont des personnes qui sont licenciées, hein, non ?
Oula, si, obligatoirement. Hein. C'est très compliqué d'organiser cette course, puisque c'est très réglementé. C'est une course donc, qui se déroule sur un circuit de 2 km qui est tracé au milieu des vignes à partir du centre de Saint-Étienne-des-Houlières. Le parcours est entièrement fermé, bien évidemment, balisé, interdit à tout le monde. Et tous les concurrents ont obligatoirement une licence UFOLEP. C'est un parcours très physique, puisqu'on a une belle montée et une grande descente. Donc, ceux qui ont des engins qui ne marchent pas trop bien, il faut vraiment user les pédales. Donc, voilà, c'est un très beau circuit que les pilotes apprécient beaucoup, parce que tracé à travers notre beau Beaujolais, ça peut être que magnifique, surtout au mois de juillet. Alors, la course de Solex, en fait, c'est 4 heures, c'est de 14h à 18h, avec un départ à l'ancienne, façon 24h du Mans, donc ça vaut vraiment le coup de venir à ce moment-là. Et puis, le matin, on a des essais qui durent déjà de 10h30 à 11h30. Donc, il y a de l'animation dans le bourg des Houlières à partir de 9h du matin. À côté de cette belle animation, on a toujours notre exposition de véhicules anciens, qui se tient donc sur la place de la salle des fêtes. On espère réunir 60-70 véhicules. Donc, ces véhicules seront exposés fait le matin et l'après-midi. À midi, ils paraderont sur le circuit deux ou trois fois, puis ils s'arrêteront pour que les spectateurs puissent les voir de près. Et l'après-midi, pour ceux qui seraient intéressés, on organise une balade dans les vignes. Donc les spectateurs sont invités à venir participer gratuitement à cette balade. On les emmène faire un tour d'une douzaine de kilomètres et on finit à Saint-Jean-d'Ardière, au caveau Vinaissance, le caveau de la cave coopérative de Bel Air.
Dimanche 7 juillet, les Houillères en fête. 4 heures de course de Solex et de nombreuses animations à ne pas manquer. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu. Notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade. Souriez, c'est vendredi.